Nous allons ensemble ouvrir la parole dans le livre des Psaumes, au chapitre 16 et au verset 5. J'ai à cœur de vous partager plusieurs prédications sur la vie éternelle. Je crois que c'est un sujet intarissable, mais essayer de le faire de manière à avoir dans la parole de Dieu toutes les illustrations qui nous sont données par rapport à la vie éternelle. Et on en trouve une dans ce psaume. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot, un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu n'abandonneras point mon âme dans le sépulcre, et tu ne permettras point que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. Merci Seigneur. Quand on lit ce psaume, on voit, en plus on l'a pas lu en entier, mais on voit déjà la profondeur de la relation de David avec son Dieu. Je ne sais pas si vous le percevez, mais les quelques paroles qu'il dit nous montrent à quel point cet homme il avait une vraie relation avec Dieu. La façon dont il parle de son Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ce qui m'interpelle, c'est cette déclaration de foi du dernier verset « Tu me feras connaître le sentier de la vie. » Tu me feras connaître le sentier de la vie. C'est une déclaration, c'est de l'assurance. Et quand on réfléchit à ce qui est dit, on peut remarquer dans ces versets que l'apôtre Paul, à un moment donné, dans sa prédication, le jour de la Pentecôte, il a utilisé ce passage pour parler de la résurrection, pour parler que Jésus n'allait pas connaître la corruption, mais qu'il allait traverser la mort et qu'il allait ressusciter. C'est ça qui a prêché, hein. Relisez Acte 2, vous verrez que c'est exactement ce chapitre, entre autres, il y en a plusieurs. Mais pour parler de la résurrection de Jésus et le sentier de la vie, qui a ouvert le sentier de la vie, qui a tracé le chemin de la vie, c'est le Seigneur Jésus par sa résurrection. Mais ce verset concerne aussi, et de manière générale, chaque enfant de Dieu. Nous sommes tous appelés à marcher sur le chemin de la vie, le sentier de la vie, et nous pouvons tous faire cette prière, Seigneur, je veux connaître le sentier de la vie. Je veux y demeurer. Est-ce que David, quand il écrit, il n'a pas encore connu le sentier de la vie? Ben non. Il a déjà connu. D'accord? C'est quelque chose dont il vient... En fait, les versets que j'ai lus sont une description de cette relation avec Dieu qu'il va exprimer à la fin en disant c'est le sentier de la vie. Mais il dit, Seigneur, je veux le connaître encore. Je veux l'expérimenter. Tout ce dont je parle là, tout ce que je décris là dans ma relation avec toi, je veux l'expérimenter encore. Est-ce que vous avez la même soif que David? Est-ce que vous avez la même envie que le Seigneur nous fasse expérimenter sa grâce, sa présence? Et l'image qui est là dans ce chapitre, c'est un sentier. La vie éternelle, c'est un sentier. C'est un sentier sur lequel nous marchons. Quand je commence ma vie avec Dieu, quand je me repens, je me convertis par la grâce de Dieu, qui est j'ai cette vie nouvelle, je commence à marcher sur le sentier de la vie. Et quelle grâce! Quelle grâce de marcher là-dessus! Qu'est-ce que nous dit ce psaume par rapport au sentier de la vie? C'est un présent immérité, une part réservée, un processus à accepter, une protection à garder. Et quand on compare ce psaume avec des écrits de l'apôtre Paul, on va s'apercevoir, particulièrement dans le livre de Romains, qu'il y a des analogies très intéressantes, alors qu'il y a des milliers d'années qui les séparent, mais l'Esprit de Dieu est le même, du temps de David, du temps de Paul, et de notre temps aussi. Merci Seigneur. Ça veut dire que ce qui est écrit là, c'est pour moi aussi. Regardez le verset 6, ce qu'il est dit. La fin du verset 6, « Une belle possession m'est accordée. » Si on va dans Romains chapitre 6, verset 23, la belle possession qui nous est accordée, ça nous parle de ce don qui nous est donné. Est-ce que vous connaissez un verset qui parle d'un don et de vie éternelle? Ça fait partie des versets les plus connus de la Bible. Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Le don gratuit, littéralement, c'est le charisme, le don de grâce, le don qu'on nous fait mais qu'on ne mérite pas, mais qu'on nous fait quand même. Et c'est ce don-là que le Seigneur nous a fait, et ce don-là, c'est la vie éternelle. La vie éternelle et le fait de pouvoir marcher sur le chemin de la vie, c'est un présent immérité. Frères et sœurs, le jour où vous croirez que vous méritez d'être sur le chemin, ben vous n'êtes pas digne. On y reste sur ce chemin seulement quand on réalise qu'on n'en est pas digne, mais qu'on en a gagné la dignité par la mort de Jésus à la croix, par l'acceptance de cette réalité-là. Dès l'instant où on se convertit, Dieu nous fait ce cadeau merveilleux, la vie éternelle. Parce que parfois, quand on pense à la vie éternelle, on pense au lointain. Oui, maintenant je sais que mon nom est inscrit dans le livre de vie, je sais que plus tard je serai avec Dieu dans le ciel. Mais Dieu ne veut pas que la vie éternelle soit un concept futuriste seulement. Il veut que la vie éternelle, ça soit une réalité présente. Parce que c'est un chemin, je dois marcher sur le chemin. Je dois avancer pas après pas. Et la première chose pour avancer, c'est de réaliser que je ne le mérite pas. Seigneur, merci pour ta grâce. Une belle possession. Vous êtes d'accord que c'est une belle possession ? Quand même, quand David il dit ça, c'est une belle possession m'est accordée. Seigneur, cette relation avec toi que j'ai, c'est incroyable. Je peux posséder tous les trésors de la terre. En plus, lui était roi, il avait quand même certaines richesses, mais il avait compris que le plus important, c'était cette possession spirituelle qu'il avait par grâce, par la foi dans son Seigneur. Recevons ce matin encore, de manière peut-être fraîche et nouvelle dans notre cœur, le don gratuit de Dieu. Ah, moi je l'ai reçu il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Oui, mais reçois-le encore, mon frère, ma sœur. Et réalise à nouveau la grâce qui t'est faite, le privilège qui t'est fait, que quelque chose que tu ne mérites pas, le Seigneur te le donne. Au verset 5 du psaume 16, on va faire des allers-retours entre le psaume 16 et Romains, mais au verset 5, il est dit « L'Éternel est mon partage, mon calice, c'est toi qui m'assures mon lot, un héritage délicieux m'est échu. » Tout ça, ça nous parle d'héritage, ça nous parle d'une portion, d'une part qui nous est réservée. L'Éternel est notre héritage. Et la vie éternelle que nous avons par la foi, c'est notre héritage aussi. Est-ce que vous connaissez Elon Musk ? Les plus jeunes connaissent peut-être, mais on a tous plus ou moins entendu parler. Si vous ne connaissez pas, c'est le nouvel homme le plus riche du monde. Celui qui a dépassé, il a battu un record, plus de 200 milliards de dollars sur son compte. D'accord ? C'est pas mal. C'est un petit peu plus que moi. Beaucoup plus, en fait. Mais si Elon Musk vous adoptez et vous inscrivez sur son testament, que vous deveniez un de ses héritiers, est-ce que vous allez vivre de la même manière aujourd'hui que si ce n'était pas le cas ? Rien que le fait de savoir que je deviens un héritier de l'homme le plus riche de la Terre, ça va me faire changer, m'ouvrir des perspectives nouvelles. On est d'accord ? On va penser à des projets, à peut-être qu'on n'aurait pas pensé sinon. Parce que quand même, pour que 200 milliards disparaissent d'un coup du jour au lendemain, il faut le faire, quoi. Il y en aura toujours une petite partie. Mais vous savez quoi ? La personne la plus riche, même plus riche que Elon Musk, elle nous a adopté. C'est le Seigneur. Le Seigneur, il dit, l'or et l'argent de la terre sont à moi. Tout m'appartient. Et c'est pas une question, bien sûr, de richesse financière, mais c'est toute la terre, les créatures, ce qui a le souffle de vie appartient au Seigneur. Et nous sommes, par la foi, les héritiers de Dieu. Donc la façon dont je vis sur la terre doit être influencée par l'héritage qui m'attend dans le ciel. Surtout que par la grâce de Dieu et par le moyen du Saint-Esprit, nous avons un avant-goût de l'héritage sur la terre. Nous avons la présence de Dieu avec nous, l'Esprit de Dieu qui habite au milieu de nous et qui nous permet d'avancer, d'être transformé dans notre caractère, qui nous permet de vivre, de recevoir les directions du Seigneur, d'entendre et de discerner ce que le Seigneur veut dire à son peuple. On va aller dans Romains chapitre 2, verset 6 et voir qu'il y a l'héritage justement qui est décrit encore une fois par Paul et ça rejoint exactement ce que David est en train de dire là. Romains 2, verset 6, « Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. » Amen, c'est bien ça, hein ? Oui, ça dépend. réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Il y a deux héritages qui sont donnés dans ce passage, en fait. L'héritage, la vie éternelle, et puis l'héritage de l'irritation et de la colère. Vous choisissez quoi ? Bon, c'est facile, hein ? Il n'y a pas de piège, Seigneur, je veux la vie éternelle. Mais vous avez vu, oui, nous sommes héritiers par la foi de la vie éternelle. Dieu réserve la vie éternelle. Ça veut dire qu'il y a cette part réservée pour nous dans le ciel, mais vous avez vu, avec une attitude de cœur qui doit la rechercher. Et c'est quoi cette attitude ? La persévérance à bien faire. Littéralement, la persévérance dans les bonnes œuvres, les bonnes actions. Alors, est-ce que Paul est en train de dire, voilà, si vous voulez avoir la vie éternelle, il faut faire des bonnes actions ? Non, c'est pas ça qu'il dit. Il dit, parce que vous êtes héritier de la vie éternelle, c'est normal, sur le chemin, sur le sentier de la vie, il y a des bonnes actions. Si vous ne faites pas des bonnes actions, c'est que peut-être vous vous trompez de chemin et vous avez besoin de revenir au Seigneur. Mais si vous êtes dans cette réalité de la vie éternelle, la vie de Dieu agit en vous, la vie de Dieu déborde de vous et vous fait agir de manière bienveillante pour ceux qui vous entourent, recherchant, enfin, par la persévérance à bien faire et recherchant l'honneur, la gloire et l'immortalité, la recherche zélée. Est-ce qu'il y a, on parlait de soif, mais c'est exactement ça. Quand la Bible parle de rechercher, elle parle de ce désir, cette soif de chercher les choses de Dieu, d'aller de l'avant avec le Seigneur, d'honorer Dieu. Je vais vous donner un scoop ce matin. Ce n'est pas un, en fait. Dieu honore celui qui l'honore. Vous voulez être honoré ? Ah, ça dépend par qui vous voulez être honoré. Mais si vous voulez être honoré par les hommes, cherchez pas dans la parole de Dieu, hein, ça va pas marcher. Mais si vous voulez que Dieu vous honore, et il a promis de le faire, j'honorerai celui qui m'honore, celui qui honore ma parole. Recherchant l'honneur. Quand je recherche l'honneur, ça veut dire je veux entendre un jour cette voix qui va retentir dans le ciel. C'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai de plus grandes. Vous aimeriez pas entendre ça ? Oh là là, moi j'aspire qu'à ça. Hein ? Seigneur, je veux entendre un jour. Oui, on a vécu des combats, ça a été dur à des moments, et plus que d'autres, mais Seigneur, on a tenu bon. Comme on disait la semaine dernière, on est resté debout. Et un jour, le Seigneur, parce qu'il y a cette persévérance à bien faire, cette recherche de l'honneur de Dieu, Dieu va nous honorer. Il va nous accueillir dans son royaume. Recherchant la gloire. Bien sûr, là, c'est facile, on ne recherche que la gloire de Dieu. Un croyant, un vrai croyant qui doit avoir seulement ce désir, rechercher la gloire de Dieu. Dès l'instant où on s'écarte de ça, on se trompe de combat, on se trompe de chemin. Et recherchant l'immortalité, littéralement, c'est l'incorruptibilité. Et ça fait tout de suite référence à ce que David dit, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Alors, bien sûr, on sait que notre corps, à un moment donné, il va malheureusement devoir connaître la corruption. Mais c'est cette pensée déjà spirituelle, céleste, profonde et du futur qui montre qu'il y a cette résurrection. Dieu ne va pas nous abandonner dans le séjour des morts, mais il va nous faire ressusciter. Il va nous accueillir auprès de lui. Et sur la terre, toute cette corruption qui est là spirituelle, nous en sommes préservés par la foi parce que nous sommes sur le chemin de la vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous devons rechercher l'honneur, la gloire, l'immortalité, frères et sœurs. C'est pas juste des paroles comme ça, vite fait, vite donné, mais ça doit être quelque chose qui anime notre existence de tous les jours. Alors, il s'agit pas de vendre sa maison, de partir avec un sac à dos, je vais rechercher. Non, non, c'est dans notre vie quotidienne que je recherche l'honneur, la gloire et l'immortalité. Et que je marche sur le sentier de la vie. Vous êtes toujours dans Romains, on va aller au chapitre 5, au verset 20. Romains, chapitre 5, verset 20. Si le sentier de la vie, c'est une part réservée, c'est cet héritage, le sentier de la vie, c'est aussi un processus à accepter. Romains 5, 20. La loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Oh là là, Dieu s'est trompé parce qu'il a envoyé la loi et du coup le péché est venu. Non, non, c'est pas ça que ça veut dire du tout. Ça veut dire que la loi nous montre à nous, à tous les hommes, que nous sommes pécheurs, que nous sommes faibles. Il y a beau avoir de merveilleux commandements, quand on essaye de les vivre juste avec nos propres forces, on s'aperçoit qu'on n'y arrive pas. C'est ça que ça veut dire. La loi est venue et il y a l'offense qui a abondé, mais là où le péché abonde, la grâce a surabondé. La grâce de Dieu s'est manifestée et le verset 21 nous dit « Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. » Un des sens originaux du mot péché, vous savez que les expressions bibliques, elles sont souvent très imagées, et un des sens du mot péché, ça veut dire se tromper de chemin. Et c'est très intéressant quand on le met en relation avec tout ce qu'on partage, parce que Dieu veut que nous marchions sur le chemin de la vie, mais l'homme décide de marcher sur un autre chemin. Et il pense qu'il, lui, va marcher sur le sentier de la vraie vie, mais en fait, il est en train de marcher, de s'écarter et de marcher sur le sentier du péché, dont l'issue, c'est dit, c'est la mort. Voulez-vous aller sur le chemin de la mort ou sur le chemin de la vie? La question, vous allez me dire, elle est facile. Oui, mais Dieu la pose. Moïse, dans son temps, l'a posée. L'Éternel met devant vous le chemin de la vie, le chemin de la mort. Oh, tout le monde, théoriquement, tout le monde dit, moi je veux le chemin de la vie. Oui, mais, encore une fois, le chemin de la vie, le sentier de la vie, n'est emprunté que dans certaines conditions qui sont encore données dans ce passage. Je vous avais déjà dit que la grâce n'est jamais toute seule. Quand vous lisez la Bible, tous les versets de la parole de Dieu, vous voyez que la grâce, elle est toujours en combinaison avec quelque chose. Et c'est, la combinaison fait quelque chose de détonnant. Je prends une image pas très intéressante, mais vous avez tous vu peut-être ces vidéos de Coca-Cola mélangées avec des Mentos. Faites l'expérience à la maison, vous m'en direz des nouvelles. Mais en fait, ça fait comme une réaction chimique et la bouteille de Coca explose. Alors pourtant, c'est deux choses qu'on pense pas forcément, qui seraient dangereuses. Mettez trois ou quatre Mentos et bang, ça détonne. Mais je voudrais vous dire que la grâce associée avec des vertus de la parole de Dieu, c'est exactement la même chose, mais dans le côté positif. Une explosion de vie qui jaillit. Et là, on le voit, la grâce règne par la justice. Et le résultat, c'est quoi? La vie éternelle. Pour la vie éternelle. Moi, j'aime bien mettre des équations. Moi, je transforme même les versets en équations. Donc, grâce plus justice égale vie éternelle. La grâce, elle nous vient de Dieu. Ça, c'est pas nous qui pouvons la produire. Ce n'est pas possible. C'est la faveur de Dieu pour nous qu'on ne mérite pas. Mais la justice, est-ce que Jésus n'a pas dit rechercher la justice? Rechercher premièrement la justice de Dieu. Et donc, quelqu'un qui recherche la justice de Dieu et qui est associé à la grâce de Dieu, va avoir la vie éternelle. Amen. C'est facile, en fait, la parole de Dieu. C'est des équations faciles, vous inquiétez pas. C'est très simple. Mais il faut juste les approprier. La grâce dans notre vie, le Seigneur veut qu'elle règne. D'accord? C'est pas juste. C'est bien, je connais la grâce de Dieu, voilà, je vis des belles expériences. Non, non, la grâce de Dieu doit régner. Des fois, on a une image de la grâce de Dieu un peu gentille, un peu simplette. Mais la grâce de Dieu doit régner, doit avoir autorité dans notre vie. D'accord? La grâce règne là où la justice saigne. Réfléchissez à cette phrase. Est-ce que la justice de Dieu n'a pas fait saigner littéralement le Seigneur sur la croix? Et qu'est-ce qu'il en a résulté? La grâce abondante. De la croix, la grâce coule. On chante ça, et on a raison. Mais souvenons-nous que c'est parce qu'il y a le sang du Seigneur. La justice de Dieu qui frappe le Seigneur à notre place, comme ça a été rappelé, qui permet que la grâce de Dieu règne. Alors vous allez me dire, oui, Jésus l'a fait, donc maintenant nous on n'a plus besoin. Je ne suis pas d'accord. Parce que ce verset, oui, il fait allusion au Seigneur Jésus qui a vécu la parfaite justice de Dieu. Mais nous devons, parce que nous sommes crucifiés avec Christ, nous devons apprendre à faire saigner notre chair, à faire saigner notre moi, les choses en nous qui sont terrestres, par la justice, afin que la grâce de Dieu règne. Vous comprenez ? Quand je choisis de mettre la priorité sur les choses de Dieu, ça me fait mal parce que ça demande des efforts. Je fais saigner par la justice mon cœur, mais la grâce de Dieu règne. Quand je me sépare de certaines choses qui sont mauvaises parce que la parole de Dieu me demande de m'en séparer, ça me fait saigner, mais c'est la justice de Dieu qui me permet que la grâce de Dieu règne. Si je reviens au psaume 16, David va décrire cette justice qui agit en lui, cette relation avec Dieu, ce que ça produit dans sa vie de manière concrète. La justice qui cherche conseil auprès de Dieu. Au verset 7, regardez. « Je bénis l'Éternel, mon conseiller. » Est-ce que l'Éternel est votre conseiller ? Est-ce que l'Éternel est votre principal conseiller ? Amen. Mais si ce n'était pas le cas, inquiétez-vous. Parce que la parole de Dieu nous montre un David, sur le sentier de la vie, il a compris que c'est l'Éternel qui doit être son conseiller. La justice qu'il cultive jour et nuit la présence de Dieu. La nuit même, mon cœur m'exhorte. On se réveille tous la nuit, parfois même avec ces chaleurs, c'est compliqué. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Est-ce que je bataille ? Est-ce que je dois faire le lendemain ? Il faut que je fasse ci, il ne faut pas que j'oublie de faire ça. Ou est-ce que je suis exhorté par la présence de mon Dieu ? Je recherche justement la gloire, l'honneur, l'immortalité. C'est dans ces moments-là où je suis incapable de faire grand-chose, si ce n'est de réfléchir. Mais au lieu de laisser mes pensées vaguer dans tous les sens, « Seigneur, c'est ta présence que je recherche. » La nuit même, mon cœur... C'est un verset qui m'a chamboulé. Moi, quand je l'ai lu, j'étais tout jeune, j'avais 19 ans. Mais quand j'ai lu ce verset, j'ai dit, « Seigneur, c'est ça que je veux, moi. Je veux que la nuit même, mon cœur m'exhorte. Que la journée, quand il y a un temps creux, ou la nuit, quand il y a quelque chose qui se passe, que je suis là réveillé, je veux être exhorté par toi. » Mais vous savez quoi ? On ne sera pas exhorté par les choses de Dieu quand on nourrit notre cœur de choses de la terre. Ça ne fonctionne pas. Si on passe la soirée 4 heures devant la télévision, ça va être compliqué d'être exhorté dans notre cœur pendant la nuit sur les choses de Dieu. On va être exhorté par rapport à ce qu'on a vu à la télé. Alors des fois c'est bien, mais des fois c'est moins bien. Vous comprenez ? C'est donnant-donnant en fait avec le Seigneur. On s'offre. La justice de Dieu nous appelle à nous donner au Seigneur et lui, il remplit notre cœur. Et c'est comme ça qu'il nous exhorte. C'est cette justice-là dont il est question. La justice qui agit sous le regard de Dieu. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Ça veut dire que dans tout ce que je fais, je suis conscient que Dieu me voit. Ça s'appelle la crainte de Dieu, hein, d'une autre manière. La crainte de Dieu, c'est exactement ça. Avoir la conscience que dans tout ce que nous faisons, Dieu nous voit. Donc quand je suis là devant le pupitre, ou quand je suis dans la rue, ou quand je suis dans la voiture, ou quand je suis à la maison, peu importe, Dieu me voit. Et ça ne change rien du coup. J'ai été toujours étonné, je me souviens quand j'étais enfant, je voyais des gens, vous savez les enfants ont réfléchi, hein, on calcule un peu tout ce qui se passe dans l'église, je voyais des gens qui, j'avais aucune connaissance du pasteur et tout ça, voilà, moi j'étais loin de, vraiment petit enfant, mais je voyais des gens, quand ils priaient, ils avaient une façon de prier particulière, et quand ils parlaient, ils avaient une autre façon de parler, totalement différente, et j'arrivais pas à comprendre, parce que moi on m'a toujours dit, et j'ai pris ça à la lettre, quand tu pries, tu parles à Dieu. Donc pourquoi s'adresser de manière différente, dans l'intonation, dans des façons de faire particulières, de la façon dont on parle ? Mais parce que Dieu, il est dans cette simplicité. Quand on réalise que Dieu, il est là tout le temps, la façon dont on parle, elle ne change pas. Alors bien sûr, il y a des occasions particulières, etc. Mais quand même, est-ce que notre Seigneur n'est pas constamment sous nos yeux, frères et sœurs ? Il l'est de toute manière, même si on n'est pas d'accord. Il l'est. Par la foi, il est là. Ce matin, il est là. Mais quand on va rentrer, il sera là. Et nous voulons toujours avoir cette justice qui agit sous le regard de Dieu. Cette justice qui fait de Dieu notre appui. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Ça, c'est quasiment le résumé de la semaine dernière. Si nous voulons rester debout, Dieu doit être notre appui. Quand il est à ma droite, quand je m'appuie sur Dieu, quand j'ai cette justice qui ne compte pas que sur mes propres forces, mais qui appuie sa foi sur le soutien de Dieu, je ne chancelle pas. Et ce sont des promesses de la parole de Dieu. Alors est-ce que vous êtes d'accord de ce processus-là que le Seigneur nous demande, marcher dans sa justice ? Si nous voulons marcher sur le sentier de la vie, nous devons simplement marcher dans la justice de Dieu et la grâce de Dieu règne. C'est aussi simple que ça. Et puis, un dernier point, c'est dans Romains 6. Gardez le doigt à Psaume 16, puisqu'on va y revenir. Dans Romains 6, verset 22, c'est juste avant d'ailleurs celui qu'on a lu tout à l'heure. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Ça, c'est le verset 23. Et le verset 22 qui le précède, donc. « Maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Amen. Regardez dans Romains le nombre de fois où Paul va parler de la vie éternelle. Et quand je l'ai fait, j'ai vu cette même pensée du Saint-Esprit des centaines d'années après entre David et Paul. Et c'est ce qu'on voit là encore. Paul nous parle de deux esclavages bien différents. L'esclavage du péché qui nous asservit et l'esclavage de Dieu qui nous libère. Mais en fait, on n'a pas le choix. Il y en a aujourd'hui qui veulent être esclaves de personne. Et intellectuellement, ça se comprend. Mais spirituellement, ça ne se comprend pas parce que ce n'est pas possible. Soit on est esclave du diable, soit on est esclave de Dieu. C'est ce que dit la Bible. Mais je peux vous dire, et je sais que vous le savez, que ça vaut plus la peine, ça vaut le coup d'être les esclaves du Seigneur parce que c'est un maître merveilleux. Non seulement il ne nous traite pas comme des esclaves, mais il nous accueille dans sa famille. Ça, c'est notre Dieu. Tandis que l'autre, pour ne pas le citer, s'il peut nous faire du mal, s'il peut nous blesser, tout en pensant que c'est Dieu qui envoie toutes sortes de choses contre nous, comme beaucoup de gens sur la terre le pensent. Ah, tous les malheurs qui arrivent, c'est la faute de Dieu. Mais on voit derrière qu'il y a un manipulateur qui est là, qui fait tout le mal et après qui accuse que c'est Dieu qui le fait. Comme ça, les gens ne veulent pas de Dieu. Mais quand on regarde notre pays, on sait que ça apporte pas la grâce, cette attitude-là. Mais notre pays, notre ville, notre département a besoin d'hommes et de femmes qui marchent sur le sentier de la vie et qui ne sont pas esclaves du diable, qui sont esclaves de Dieu, de montrer aux gens que c'est quelque chose qui est possible. Quand je suis esclave de Dieu, je suis vraiment libre dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. C'est juste que je dédie maintenant ma vie au Seigneur. Frères et sœurs, si vous ne dédiez pas votre vie au Seigneur, posez-vous la question, est-ce que je suis un esclave de Dieu ? Parce que esclave de Dieu, ça veut dire ce que ça veut dire quand même. Ça ne veut pas dire que je, encore une fois, il ne faut pas être extrémiste, je vends tous mes biens et je passe mon temps à l'église, etc. C'est pas ça. Mais dans tous les domaines de ma vie, est-ce que Dieu est le maître ? On aurait pu insister sur ce verset, le 23, la fin, la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus-Christ est-il notre Seigneur ? Souvent, Jésus-Christ est notre Sauveur. Moi, je sais de quoi je parle, je l'ai vécu personnellement. J'ai baignant dans l'atmosphère chrétienne depuis mon enfance, j'ai compris très rapidement qu'il y avait tout intérêt à ce que Jésus pardonne mon péché. Ça, c'est important. Mais cette étape de dire « Jésus, tu es aussi mon Seigneur, je te dévoue toute ma vie. Tu es le maître de toute ma vie. » Mais j'étais bloqué entre deux moi pendant quelques années. Jusqu'au ce que le Seigneur me fasse comprendre qu'il ne faut pas s'arrêter. La foi, c'est le cœur total que Dieu demande. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. De juste la moitié de ton âme, mais de tout ton cœur, c'est ça ? Non. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et on pourrait rajouter la liste. Ça décrirait, je pense, très bien ce que le Seigneur nous demande. Si on revient dans ce psaume 16 pour conclure. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas, nous dit le verset 8, et regardez la suite. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, mon corps repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Entendez-vous dans ce verset la protection qu'il y a sur le chemin de la vie ? Quand Dieu est à ma droite, je ne chancelle pas, mon cœur est dans la joie. Il y a une joie continuelle. Il y a l'allégresse qui est là dans notre esprit. Il y a le repos de l'âme. Mon cœur repose en sécurité. Combien dans ce monde soupirent après ces réalités sans rendre compte. Et nous les avons sous les yeux. Et le Seigneur nous rappelle que sur son chemin, le sentier de la vie, c'est un endroit où il y a la protection. Et quand je reste sur ce sentier, je reste dans la joie, je reste dans le repos, je reste dans cette sensation que je ne suis pas abandonné. Tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Ne vous inquiétez pas, le Seigneur ne vous abandonnera jamais. Même quand vous serez mort, le Seigneur ne vous abandonnera pas. Au contraire, c'est encore plus qu'on va sentir sa présence. Comment faire pour garder cette protection? Mais c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Vous êtes devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Est-ce que notre fruit sur la terre, c'est la sainteté? Oh, c'est une grande question, hein? Je voulais vous parler de ce témoignage, un officier de l'armée du salut qui racontait quelque chose qu'il a pu vivre. C'était dans la ville de San Diego, un grand carrefour de grandes rues qui se croisaient, donc il y avait une manifestation spéciale. Mais avant de vivre ça, en fait, il y a une jeune fille qui s'est convertie dans une réunion de l'armée du salut, et dont le papa, c'était un tenancier de saloon, de bar, voilà, quelque chose un peu de malfamé, qui était connu dans toute la ville. Mais cet homme a été transpercé par le témoignage de sa fille. Alors qu'il ne s'intéressait pas du tout à ce qu'il appelait la religion. « Oh, c'est pas pour moi, ça, c'est pour les bonnes femmes. » Voilà comment il parlait. Mais quand il a vu sa fille changer, transformer et mettre sa vie en règle, il y a quelque chose qui a commencé à s'éveiller dans son âme, dans son cœur. Et puis un soir, tout le monde était surpris, il est venu à la réunion, et à la fin de la prédication, il s'est approché, il a pleuré sur son péché, il a demandé à Jésus de devenir son sauveur. Et tout de suite, il y a des gens qui le connaissaient, ils ont dit « Ah, maintenant il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, par rapport à ton saloon, par rapport à... » Et vraiment, lui, il s'est tenu devant Dieu. Et puis, à un moment donné, il a eu une idée. Il est allé voir les autorités de la ville, vu qu'il les connaissait bien. Et il a dit, voilà, je voudrais, à ce carrefour, cette rue-là, je voudrais bloquer la circulation pendant une matinée pour quelque chose de particulier. Ok, c'est bon, vas-y. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris toutes les réserves qu'il avait d'alcool dans son bar. Et il a fait une estrade en pyramide. Il a fait un truc qui se voyait de loin, et l'armée du salut s'est arrivée avec la chorale, avec les mêmes instruments. Ils ont fait une réunion improvisée à ce moment-là. Et puis cet homme est monté tout en haut de la pyramide, et il a commencé à rendre témoignage. Et il a commencé à dire « Gloire à Dieu, je suis au-dessus des tonneaux de bière. Pendant des années, j'étais en dessous, sous le pouvoir de l'alcool. Mais Dieu m'a libéré. » Et il a commencé à parler à tous les gens, il y avait une foule qui était là, nombreuse, et commençait à leur dire « Mais convertissez-vous, donnez votre cœur au Seigneur, il est celui qui nous affranchit, il est celui qui nous libère, il nous aime. » Bref, il a fait l'évangéliste par son témoignage. Et il a pris une par une toutes les bouteilles d'alcool, il les a cassées sur la pyramide, et il a mis le feu. Et il y a eu un géant incendie, bon, sur la place canalisée, vous inquiétez pas, mais quelque chose qui se voyait de loin pour montrer son renoncement à toutes ces choses. Et cet homme a commencé à travailler dans un travail très bien et a été toute sa vie une lumière dans sa vie, tout simplement. Une lumière du Seigneur dans son existence parce qu'il a compris ce que ça voulait dire porter le fruit de sainteté. La sainteté, voilà ce que le Seigneur nous demande. Rien de moins que ça. C'est un grand programme. Mais son Esprit Saint, pensez-vous que son Esprit Saint va nous aider à être saints? Mais c'est obligé, si ce n'est pas le cas. Et si justement notre chemin n'est pas un chemin de sainteté, posons-nous la question, est-ce que nous sommes sur le chemin de la vie éternelle? Le chemin de la vie éternelle, celui qui va à la vie éternelle, c'est ce que nous disent tous ces passages. Il est empreint de cette sainteté du Seigneur. Oh, mais combien nous avons besoin de dire, Seigneur, fais-moi connaître ce matin encore le sentier de la vie. Donne-moi un renouveau dans mon cœur. On ferme les yeux quelques instants, mais on prend ce temps devant le Seigneur. Avoir ce même cri que le psalmiste, que David, cet homme qui a reçu l'onction de Dieu et qui a pu exprimer, Seigneur, tu me feras connaître le sentier de la vie. Nous voulons connaître, Seigneur, aussi le sentier de la vie, chacun pour notre part. Et en tant qu'Église, nous voulons connaître le sentier de la vie. Nous voulons, Seigneur, que là où nous allions, il y ait la vie. Nous voulons, Seigneur, que ce que nous disons soit empreint de ta vie. Nous voulons, Seigneur, que dans nos actes, dans notre persévérance à bien faire, il y a aussi ta vie. Oh, mais nous savons que nous avons besoin de ton esprit vivant et puissant et saint. Prends toute la place en nous, Seigneur. Si tu vois quelque chose qui bloque dans notre cœur, montre-le nous. Nous voulons nous placer devant toi avec sincérité, honnêteté. Non pas ce que nous voulons, mais ce que tu veux, Seigneur. Oui, sois le maître. Nous voulons que ta grâce règne. Mais ta grâce règne là où ta justice saigne, Seigneur. Que ta justice nous amène à faire ces bons choix dans nos vies, qui t'honorent, qui te glorifient. Ô Seigneur, oui, nous soupirons après toi, après ta visitation, après tant de rafraîchissements. Nous soupirons après ta présence répandue de manière encore plus grande, ton amour qui déborde de nos vies. Et nous savons que c'est ce que tu désires que nous vivions. Merci pour la grâce. Merci pour la paix. Merci pour le repos. Tu vois ceux qui ne sont pas dans le repos ce matin. Accorde ton repos, Seigneur. Accorde ta joie à celui qui est attristé. Accorde, Seigneur, ta divine onction à celui qui est lassé, abattu dans son âme. Accorde, Seigneur, une vision nouvelle à celui qui ne sait pas où aller. Ô Seigneur, nous comptons sur toi, tu es notre soutien. Tu es celui sur lequel nous nous appuyons, Seigneur. Merci pour la vie éternelle, ce cadeau que nous pouvons vivre encore ce matin et tous les jours de notre vie. Reçois l'adoration de ton peuple, Seigneur, qui t'aime et qui t'adore. Amen.